Bonsoir. Clôture jeudi 15 décembre de la session budgétaire dans les deux chambres du Parlement. Peu avant la clôture de la session, le Sénat a voté le budget 2023, réévalué à plus de 16 milliards de dollars, alors que la Chambre sort l'a voté à plus de 15 milliards de dollars américains. Après la paritaire, les deux chambres ont harmonisé les vues et le budget a désormais été voté à plus de 16 milliards de dollars au lieu de 14,6 milliards arrêtés par le gouvernement. Les 2 milliards supplémentaires de la prévision des recettes ont été affectés au social des Congolais, à la défense nationale ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Entre-temps, le gouvernement, par le truchement de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiese, a sollicité devant les élus nationaux l'adoption de la loi portant habilitation pour une durée de 3 mois pour légiférer par voie d'ordonnance-loi. Cette demande du gouvernement a été acceptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous du déroulement des travaux au Parlement pendant cette session budgétaire? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 20 décembre 2022. Participe au débat Emery Okundji, député national élu sur la liste Fonus Rassop. Il est cadre de l'Union sacrée de la Nation et membre de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Emery Okundji, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jean-Baptiste Mwendo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamouka. Il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Mwendo, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Avec nous aussi dans ce débat, le professeur Michel Bissa. Il est professeur à l'université de Kinshasa et secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance. C'est un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur Michel Bissa, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux honorables députés.
À Mbandaka dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sous la 103.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de vous connecter sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, clôture jeudi 15 décembre dernier de la session budgétaire dans les deux chambres du Parlement. Le Sénat a voté le budget 2023 réévalué à plus de 16 milliards de dollars américains alors que l'Assemblée nationale l'a voté à plus de 15 milliards. Après la paritaire, les deux chambres ont harmonisé les vues et le budget a désormais été voté à plus de 16 milliards de dollars américains au lieu de 14,6 milliards arrêtés par le gouvernement, signalant que pendant cette session essentiellement budgétaire, le contrôle parlementaire s'est traduit notamment par le rejet d'une motion initiée contre le ministre des Transports et Voies de Communication. Les détails avec vous, Michel Kifinda.
C'est tard dans la nuit que le Parlement a clôturé la session de septembre après avoir voté le budget le plus élevé de l'histoire de la RDC, se félicite le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo.
Le gouvernement est parti d'un budget de 22 000 pour 29 000 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale a travaillé à 32 000, 34 milliards. Le Sénat a à son tour apporté un surplus de 468 milliards.
Étant voté en des termes non identiques, une commission paritaire a été convoquée et c'est la position du Sénat qui est adoptée en définitive. Le budget 2023 est donc voté à plus de 16 milliards de dollars, précise le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso.
Cette loi de finances prend en compte non seulement certaines préoccupations quotidiennes des Congolais, mais aussi les impératifs sécuritaires, les soucis de réhabiliter et de construire les infrastructures socio-économiques de base ainsi que les financements du processus électoral.
Le Parlement a aussi habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance loi durant ses vacances. L'Assemblée nationale a également, avant la clôture, entériné les membres de la Commission nationale des droits de l'homme.
Merci Michel Kifindango. Emery Okundji, vous êtes député national élu sur la liste Fonus Rassop. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la Nation et membre de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Vous avez clôturé la session de septembre jeudi 15 décembre dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire du déroulement des travaux pendant la session de septembre?
Je vous remercie, Madame Côté. Un petit correctif, je suis membre de la PAJ et non de l'ECOFIN.
Merci.
Alors, la session, comme vous l'aviez vous-même souligné, les matières étaient abondantes. Vous savez, bien que la session est essentiellement budgétaire, l'Assemblée nationale a également légiféré sur les matières législatives inscrites à son calendrier. Et non seulement les matières législatives, et il y a aussi des matières non législatives. Par exemple, la recommandation interdisant au gouvernement de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale, ou de tout autre service de sécurité, de défense et de sécurité, des éléments issus des groupes armés. Ça, c'est une matière non législative, mais très importante. Et il y a eu aussi, du côté contrôle parlementaire, le travail a été abattu, bien que cette fois-ci, ce n'est pas un travail visible, hein, parce que vous savez, l'Assemblée nationale a plusieurs moyens de contrôle, notamment l'audition en commission, des questions écrites. Ce mode de contrôle n'est pas visible à l'opinion publique. Et donc, toutes ces matières ont été traitées durant cette session que nous venions de clôturer, bien que c'est une session essentiellement budgétaire, Madame Côté.
Est-ce que vous vous dites satisfait du travail que vous avez abattu pendant cette session de septembre?
Oui, Madame, sans crainte d'être contredit, même par mon collègue qui débat avec nous ce soir, je suis fier. Je suis fier parce qu'on a rempli les missions qui fondent notre existence, c'est-à-dire la mission de légiférer et de contrôler. Et vous savez, la session était ouverte dans un contexte particulier, Madame, où nous avions d'abord l'état de siège à l'est de notre pays, ajouté à cela l'agression rwandaise, Madame Couté, et tant d'autres poches d'insécurité parties par là. Et donc, la session était mouvementée, mais nous avions traité de toutes les questions importantes pour la vie de notre nation. Vous aviez vous-même dû remarquer ce qui était tabou hier, le débat sur l'agression du Rwanda, était aujourd'hui une réalité. Nous avions débattu de tout et de rien. Et donc, je suis fier, Madame Couté, d'avoir accompli durant cette session qui était essentiellement budgétaire toutes les missions qui fondent l'existence de notre fonction.
Et donc, il n'y a pas d'arriéré. Vous avez légiféré sur toutes les matières qui étaient prévues sur le calendrier de septembre.
Non, Madame Couté, il y a toujours d'arriéré, vous savez, il y a toujours d'arriéré législatif. Mais l'essentiel a été fait, Madame Couté. L'essentiel a été fait et là où nous n'avions pas pu faire, au regard du contexte particulier que nous vivons aujourd'hui, qui traverse notre pays, nous avions pris soin de répondre positivement au gouvernement de la République qui a sollicité la loi d'habilitation pour que pour des matières bien déterminées, bien listées, que le gouvernement puisse le faire à notre instance et puisse prendre des mesures conformément à l'article 129 de la Constitution, agir à lieu et place du Parlement sur des questions bien précises lorsque nous serons en vacances parlementaires.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces questions bien précises, Emery Okundji? Quelles sont les matières concernées par la loi d'habilitation?
De manière non exhaustive, il y a l'autorisation, par exemple, l'autorisation de la prorogation de l'état de siège dans une partie de la République démocratique du Congo. Vous avez l'autorisation de la ratification du traité de l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin, l'autorisation de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine de l'Union africaine des télécommunications, vous avez l'autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Vous avez la protection et la promotion de la propriété littéraire et artistique. Vous avez la détermination des principes fondamentaux concernant la culture et les arts. Vous avez la modification de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Vous avez la fixation des modalités d'exercice et de la liberté de presse.
Il y en a beaucoup,
je vois. Vous avez la modification du code de douane. Vous avez le code du numérique et vous avez la modification de la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique qui était déjà adoptée à l'Assemblée nationale, envoyée au Sénat pour seconde lecture. Mais comme cela n'a pas eu lieu au Sénat, nous l'avons mis aussi sur la liste.
Merci.
Voilà, en grosso modo, les matières qui ont été inscrite dans cette loi d'habilitation.
Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition La Mouka. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Êtes-vous aussi satisfait, comme Emery Okundji, du déroulement des travaux à l'Assemblée nationale pendant la session de septembre?
Non, madame, je ne suis pas du tout satisfait parce que la population de Maïndombe qui passe par des situations dramatiques, la population de Kwilu, la population de Butembo qui se trouve au croisement entre les tirs des supplétifs des ADF et des éléments de FRDC qui font preuve d'une indiscipline sans précédent à Butembo, les populations de Rutshuru, les populations de Tongo, de Bambu, de Kishishe. Ces populations-là ne se sont pas retrouvées dans l'ensemble des questions que nous avons débattues. Je voudrais, avant de développer ma pensée, remercier d'abord tous ceux qui ont prié pour nous et qui nous ont soutenus. Vous savez qu'au cours de cette session, personnellement avec mon collègue Denis Sanga, nous étions sous les coups d'une menace d'invalidation. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont soutenus et les collègues qui n'ont pas donné gain de cause à cette initiative. Mais je ne suis pas satisfait. Pourquoi, madame? D'abord, au plan sécuritaire. En date du 23 septembre 2022, c'est-à-dire 8 jours après l'ouverture de la session parlementaire, j'ai personnellement déposé une interpellation adressée au premier ministre, chef du gouvernement, en rapport avec les 100 jours d'occupation de Bunagana et à l'alisement de la situation sécuritaire au nord Kivu à Ituri, principalement à Butembo. En date du 3 octobre, le président de l'Assemblée nationale, le citoyen Christophe Mosokodia, a accusé réception de mon interpellation et il a promis que le débat autour de cette demande d'interpellation devait être programmé au cours de la séance la plus proche. Madame Kelly, jusqu'au 15 décembre 2022, eh bien, la question n'a pas été programmée. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que le Parlement et principalement l'Assemblée nationale a manqué à son devoir de contrôle. Le Parlement n'a pas le pouvoir d'initiative pour sanctionner le gouvernement. Parce que de mon point de vue, à travers cette interpellation, cette demande d'interpellation que j'ai déposée, j'ai démontré que les conditions pour lesquelles le gouvernement Ilukamba avait été sanctionné dans la motion déposée par les collègues membres de l'Union sacrée, les conditions de la révocation du gouvernement Ilukamba sont largement réunies pour que l'Assemblée nationale se saisisse, interpelle le gouvernement Samalukonde et le révoque. Mais cela n'a pas été fait. Sur le plan du budget, madame, le budget, comme vous l'avez dit, il a été adopté à 16 milliards de dollars. Or, le gouvernement venait, pendant que nous étions en vacances parlementaires, de voter la loi sur la programmation militaire qui a été promulguée par ordonnance loi, qui fixe l'état des besoins urgents de notre armée à 5 milliards de dollars.
et ces 5 milliards devaient être réunis sur 5 ans. Nous avons dit, et mon collègue Emery le témoin, que compte tenu de la situation sécuritaire dramatique, le pays qui se retrouve de plus en plus ingouvernable dans toutes les provinces, profitons de la majoration de 6 milliards de surplus au budget 2023 pour couvrir d'un seul coup le budget demandé par l'armée dans le cadre de la loi de programmation militaire. Mais comme toujours, l'absence de volonté politique a fait de l'armée la priorité des priorités. Cette absence de volonté a encore été manifeste parce que les 6 milliards-là sont répartis. Bon, je ne voudrais pas négliger les autres dépenses, mais aujourd'hui, la question de la montée en puissance des FARDC est une priorité des priorités et le Parlement n'a pas été capable d'infléchir ce manque de volonté dans les chefs du gouvernement. Enfin, j'en viens à la loi d'habilitation. Mon collègue Emery Okunji, il était la commission PHJ, a dit après réunion que l'habilitation ne pouvait être accordée que pour 5 matières jugées urgentes, notamment prorogation de l'état de siège, toutes les lois de ratification. Que par contre, les autres lois, telles que la matière sur la liberté de la presse, l'environnement et autres, le gouvernement ne devait pas fuir l'Assemblée nationale, ne pouvait pas tricher à s'attribuant les prérogatives dévolues au Parlement pour légiférer, mais le président de l'Assemblée a insisté pour dire que l'on déclare le rapport, ce projet de loi recevable avec amendement, un amendement dont il était seul à définir le contenu. C'était dans le but que toutes les matières demandées par le gouvernement soient accordées dans l'habilitation alors que la plénière avait voté contre. Et pas personnellement, j'étais contre la loi d'habilitation. J'ai proposé plutôt que l'Assemblée accepte que l'on demande au gouvernement de nous présenter par contre un plan de sortie de l'état de siège avec un chronogramme d'opération qui nous permettrait de chasser les M23 de Rutshuru et de Nyiragongo avant le 31 janvier 2023 pour que cette population participe à l'enrôlement prévu à partir du 12 février. Nous avons donné l'habilitation au gouvernement. Mais curieusement, 2 mois après la rentrée des vacances parlementaires, Bounagana est tombé. On a à nouveau donné pour la 2e fois l'habilitation au gouvernement. 1 mois après la rentrée des vacances parlementaires, Rutshuru, Kiwanja, Tongo, Bounagana et autres sont tombés. Et je disais, si nous ne contrôlons pas rigoureusement ce gouvernement, nous risquons de lui accorder une habilitation, les députés vont en vacances, et au retour, nous allons retrouver la ville de Butembo tombée sous les mains des présumés ADF. Nous risquons de retrouver Goma tombée entre les mains des présumés M23 et qu'il fallait contrôler rigoureusement. Mais comme l'Assemblée se disait, des députés qui disaient, nous ne pouvons pas décevoir notre gouvernement, le gouvernement c'est notre émanation, nous ne pouvons pas suspecter notre gouvernement. Et ils ont voté même contre leur propre conscience. C'est dire, madame, que pour moi, la session parlementaire de septembre 2022 n'a pas répondu aux préoccupations fondamentales de notre peuple. Les députés nationaux, surtout membres de l'Union sacrée, ont préféré faire les yeux doux à l'exécutif, manifester leur loyauté envers Félix au détriment de la loyauté envers la population qui nous a élus. Et c'est inacceptable.
Merci Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa. Emery Okunji va réagir à vos propos dans le 2e tour de table. Professeur Michel Bissa, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance. C'est un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur, que pensez-vous du déroulement des travaux au Parlement pendant cette session budgétaire?
Merci beaucoup, Madame le journaliste. Je commence par saluer encore l'honorable Emery Okunji et l'honorable Jean-Baptiste Mohindo par rapport à leurs interventions qui s'inscrivent bien évidemment chacun dans sa chapelle politique. Je pense que s'il faut dire un mot ou il faut évaluer par rapport à l'Assemblée, il faut les voir autour des 3 axes principaux. D'abord, en matière de législation, en matière de contrôle parlementaire, mais également en matière de l'image des marques institutionnelles ou de l'image de marque de l'État. On l'a dit ici, la session de septembre, en principe, ça, c'est une session essentiellement budgétaire, mais autour de cette question du budget, il y a plusieurs autres questions. Commençons avec la question budgétaire. Lorsqu'on arrive avec une loi de finances adoptée à 16 milliards, alors qu'au départ, le gouvernement qui gère au quotidien l'État avait proposé 14 milliards, vous voyez déjà les problèmes là où ça se pose, madame. C'est-à-dire que celui qui vient avec la réalité des finances vient avec une projection minorée et le Sénat estime, c'est possible, ça peut se faire ailleurs, qu'on peut augmenter. Alors les 2 milliards supplémentaires, nous sommes encore dans des chiffres, on va décider de les répartir entre le social, le projet de 145 territoires et la sécurité. Vous voyez, madame, que le projet de 145 territoires, d'abord, au début, c'était un projet annuel pour le budget en cours qui expire bientôt. Et donc, il y a déjà là un petit souci qui arrive. Je félicite cette session si ce qui a été positif, à mon avis, c'est le fait que cette session parlementaire ait adopté la loi sur la programmation militaire. Vous savez, madame, avant, notre armée, c'était une armée qui fonctionnait à l'aide des devis. Mais maintenant, avec cette loi, on a vu une vision claire, nette, là où nous voulons aller, mais je ne reviens pas sur les constats faits par l'honorable Jean-Baptiste lorsqu'il dit que le manque de volonté en termes de l'allocation des recettes se pose. Mais madame, deuxième volet, c'est par rapport à l'image des marques de cette session, ou l'image que le Parlement, l'Assemblée nationale surtout, rejette dans l'opinion. L'image, de manière globale, c'est que quand vous faites un sondage, l'Assemblée nationale donne l'image d'être devenue une caisse à résonance du pouvoir exécutif. Et pourtant, l'Assemblée nationale, surtout, plus que même le Sénat, devrait être le reflet des ambitions et des aspirations populaires. Nous avons donc là une Assemblée nationale qui a décidé de s'aligner beaucoup plus du côté du pouvoir exécutif, comme ils disent eux-mêmes que c'est leur propre émanation, que du côté de l'image de la population et même des intérêts de la population. Lorsque j'aborde la question de l'image, cette session de septembre qui s'est achevée le jeudi 15 a montré à la face du monde, à la face du petit peuple que nous avions, une partie, si pas majoritaire des députés, en tout cas jouissaient. Vous avez vu la crise éthique des représentants du peuple qui s'observent d'abord dans des boîtes de nuit, dans des bars, à travers des danses, on ne veut pas dire obscènes, à travers des injures publiques. Vous avez suivi lorsque un député national pouvait pratiquement injurier. Et l'image globale est que toutes ces questions s'inscrivent dans la continuité de l'impunité totale. Deuxième coup majeur sur l'image de la notabilité institutionnelle du Parlement vient autour de la faiblesse du contrôle ou ce qu'on peut appeler la théâtralisation du contrôle parlementaire. L'honorable Jean-Baptiste Maïndo l'a dit, je ne veux plus y revenir en masse. Autour de cette session, nous avons d'abord assisté à la faillite de la motion qui était animée contre le ministre des Transports. Évidemment, il y a eu les jeux et les enjeux politiques autour de cela, mais en tout cas, l'image que ça donne au niveau de la population, au niveau global, c'est qu'il y a une sorte de théâtralisation là-bas. Troisième enjeu, et qui pose un coup, les deux honorables l'ont dit, mais en des termes différents, c'est par rapport à la loi d'habilitation. La loi d'habilitation, nous avons suivi tous les débats au niveau de l'Assemblée nationale, en principe, devrait être limitative et de manière à ne pas toucher des matières sur lesquelles l'Assemblée nationale, la plénière, s'était déjà prononcée. Prenons par exemple la question de la loi sur la santé publique, la transplantation d'organes. Nous savons que cette question, que moi je soutenais en tant que scientifique, j'ai suivi tous les débats, mais la plénière ne s'était pas prononcée pour. Et donc nous avons un certain nombre de matières sur lesquelles la plénière de l'Assemblée nationale s'était prononcée contre, mais que, à la fin, la même plénière va estimer qu'il fallait donner dans la loi d'habilitation au gouvernement des pouvoirs légiférer. Et donc, il se pose là-dedans un problème majeur entre une institution Assemblée nationale qui décide d'être plus une institution du côté du pouvoir exécutif que d'être beaucoup plus proche du pouvoir législatif, et donc des aspirations de la population.
Alors, professeur, on peut dire que pour vous, le bilan n'est pas très satisfaisant, le bilan des travaux.
Pour moi, le bilan, autour d'abord de l'image de l'institution, est vraiment chaotique. Autour du contrôle parlementaire est chaotique, mais autour de la production législative, oui, nous avons vu un certain nombre d'initiatives qui valaient la peine, comme la loi sur le numérique, comme la loi sur la programmation militaire, je l'ai dit tout à l'heure, autour des textes. Mais le problème du Congo n'est pas un problème des textes. Le problème du Congo, c'est un problème de l'homme. Et sur cet aspect-là de l'homme, sur cet aspect-là de la culture politique, nous avons connu plusieurs régressions avec l'actuelle session, mais surtout avec l'actuelle Assemblée nationale, y compris, madame, au niveau de la conduite des débats. Vous voyez que le président de l'Assemblée nationale a enregistré plusieurs points de recul dans la manière de la conduite des débats, dans la manière de la respectabilité de ses collègues, dans la manière d'octroi des paroles, dans la durée même des travaux, des plénières. Tout rejette, tout donne désormais l'image de la complaisance institutionnelle, de la complaisance parlementaire, et malheureusement c'est cela. C'est cela qui est de manière générale, je vous remercie.
Emery Okundji, il y a Robert Baomé qui vous demande quelle est l'opportunité de la loi d'habilitation pour une durée de 3 mois accordée au gouvernement afin qu'il légifère par voie d'ordonnance loi. Pourquoi ne pas laisser l'Assemblée nationale jouer seule son rôle naturel de légiférer en session ordinaire comme en session extraordinaire?
Eh bien, je vous remercie. Je remercie l'auditeur, madame. Mais avant de répondre à l'auditeur, permettez-moi, madame, de répondre à mes deux co-débatteurs. Madame, écoutez, sans vouloir user d'un ton professoral ni populiste, j'aimerais dire à mes deux co-débatteurs que la gestion de la République est différente d'une recherche scientifique ou de quelqu'un qui est à la recherche du populisme, madame. Un, la République démocratique du Congo est agressée à l'est de la République de notre pays. Il faut faire la différence entre la gestion au quotidien de la République et la mission qui fonde l'existence d'un Parlement. Le Parlement a pour mission de légiférer et de contrôler. On ne peut mesurer le bilan du Parlement ou de l'Assemblée nationale de manière singulière qu'en termes de ces deux missions. Alors, s'il faut vous donner le nombre de lois légiférées, vous trouverez qu'à la session ici, on a légiféré sur plus de 40 matières, Madame Couté. S'agissant du contrôle parlementaire, je l'ai dit qu'il y a plusieurs moyens de contrôler, Madame Couté. Il n'y a pas seulement que la question orale avec débat ou l'interpellation pour que tout le monde voie que nous sommes en train de contrôler. Il y a les auditions en commission, il y a des questions écrites, il y a des commissions d'enquête qui ont été créées. Les deux dernières, mon collègue les sait très bien, c'est la commission d'enquête sur l'évaluation des contrats miniers et la concession, les concessions forestières et des terres arables, madame Écoutez. Et donc, lorsque une partie du territoire est agressée par les puissances étrangères, par le Rwanda et des forces terroristes qu'il nourrit, qu'il soutient, qu'il finance, un minimum de patriotisme, madame, nous ne pouvons pas mettre tout à la place publique.
Mais l'interpellation du Premier ministre par le député Cassé Kouah,
madame, pour des fois tenir même des propos qui démoraliseraient nos troupes, mais madame, écoutez. Et au professeur, madame, lorsqu'on est scientifique, il faut éviter l'extrémisme. Il faut éviter l'extrémisme. Nous avons fait notre travail au regard des missions qui fondent notre existence. Monsieur le professeur, nous ne pouvons pas nous substituer au gouvernement. Et donc, il faut peut-être vous approcher de l'institution pour avoir des éléments. S'agissant de la motion d'habilitation du gouvernement, mais c'est constitutionnel, madame, écoutez. Voulez-vous que le Parlement face à une violation de la Constitution, l'article 129. Et d'ailleurs, je souligne le fait que les ordonnances et lois délibérées à Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi. C'est-à-dire, dès que nous revenons, le gouvernement a l'obligation de nous transférer tout ce qu'il a pris par ordonnance, loi, tout ce qu'il a fait par légifération en agissant comme parlementaire, il devrait nous les envoyer pour ratification. Et la loi d'habilitation est limitée dans les temps, c'est 3 mois de vacances parlementaires. Et donc, que ce soit mon collègue, je comprends très bien, mon collègue, que ce soit le professeur qui analyse les faits, il faut un peu du patriotisme, un peu d'objectivité lorsque l'on fait même les analyses dans un contexte particulier où l'est de notre pays est menacé, où la population de Goma, de Rutshuru, voire même une partie de l'Ituri, si tu veux, vivent dans des conditions inhumaines forcées par l'agression rwandaise, madame. Nous devons avoir un peu d'humilité.
Vous n'êtes donc pas d'accord des analyses du prof Bissa et de votre collègue Jean-Baptiste
Non, je ne suis pas d'accord, tout simplement parce que ces analyses ne sont pas justes, madame. Ces analyses ne sont pas justes.
Merci.
Qu'est-ce des résonances lorsque dans un pays vous avez une majorité et une minorité? Voudriez-vous que la majorité soit à la base de l'instabilité institutionnelle alors que le pays est agressé?
Merci Emery Okunchi. On va ouvrir notre standard pour prendre ces nombreuses réactions des auditeurs. Alors, on va se rendre à Kananga, au Kasaï Central, pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa.
Maître Alidor Mampouya, avocat au barreau du Kasaï Central, à partir de la ville de Kananga. Le peuple congolais, dans son ensemble, salue les travaux de cette session parlementaire du mois de septembre et note avec satisfaction la hausse du budget et que cette fois-ci veut que ce budget soit essentiellement le budget social et que les effets doivent être sentis au niveau de la population. Il ne faut pas seulement, comme les autres années passées, que le budget soit attribué dans la grande partie à certaines institutions ou à certaines personnalités, mais le peuple dans son ensemble doit sentir aussi les effets de cette hausse du budget au niveau national. Pour ce faire, on doit appliquer une justice distributive où chaque Congolais se retrouve et chaque travailleur est payé et conformément à son travail. Nombre de travailleurs qui sont restés longtemps non payés et les nouvelles unités doivent aussi se retrouver avec ces nouveaux budgets ici. Alors pour ce faire, comme nous sommes déjà vers l'année électorale, nous voulons aussi que on puisse profiter pour créer aussi d'emplois pour la plupart des jeunes qui sont restés sans emploi dans notre pays.
Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, brève réaction.
Oui, l'auditeur a parfaitement raison, ce souhait légitime. Mais encore faut-il que la commission ECOFIN exerce effectivement les contrôles relatifs à l'exécution du budget, madame. Dans les cas contraires, eh bien, le budget n'aura pas d'impact dans le vécu quotidien des populations. La Cour des comptes nous a fourni un rapport très très riche, madame, sur la manière dont les gouvernements, y compris la présidente de la République, ont violé la loi des finances 2021. Et il demandait à l'Assemblée nationale de prendre des sanctions. Si donc, à l'issue de missions de contrôle, je salue le fait que le président de l'Assemblée a demandé à la commission ECOFIN de commencer les contrôles de l'exécution du budget dès le mois de mars prochain, mais encore faudra-t-il que la majorité au pouvoir, la majorité parlementaire, puisse avoir le courage que les recommandations issues de ces rapports d'enquête soient exécutées pour sanctionner les auteurs de la non-exécution orthodoxe du budget. Dans les cas contraires, nous n'aurons pas répondu
aux attentes de la population qui sont légitimes en matière d'emploi, en matière d'amélioration des conditions de vie.
Professeur Michel Bisson, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Haru dans la province de Litouri.
Son Benjamin depuis Arora, en territoire d'Haru. De ces travaux pendant la session budgétaire, nous sommes contents qu'on ait parlé du social de la population et de la défense nationale. Nous attendons de cela l'effectivité. Nous savons que dans ce pays, il y a beaucoup de propos stériles. Le social du peuple est devenu une litanie chez tous les politiciens congolais. Jusqu'à présent, on ne comprend pas ce qu'ils appellent le social de la population.
Professeur, un petit commentaire.
Oui, merci beaucoup, madame. Je remercie l'auditeur. Il a totalement raison parce que lorsque on dit qu'il y a croissance économique, qu'il y a croissance au niveau du budget de l'État, la population devrait le vivre dans le social. Qui dit social dit notamment la paix. Qui dit social dit les routes, dit les infrastructures, dit aussi le coût de vie. Ça, c'est bon. Mais par rapport à cela, je voudrais dire ceci, madame, un petit commentaire par rapport au maître Mary Okundji. D'abord, la gestion de la République n'est pas différente de la recherche scientifique. Ailleurs, la gestion publique doit être éclairée par les évidences scientifiques. Il faut que nos élus soient à l'écoute et ne pas considérer que tous les arbres de la forêt sont des soldats ennemis ou lorsque on conçoit et on analyse différemment qu'on est dans l'extrémisme. Deux, on ne doit pas tout mettre sur la place publique en temps de guerre ou d'agression, je suis d'accord. Mais ce qui manque dans notre parlement, c'est la manière de préparer, de communiquer pour mettre sur la place publique. La guerre est devenue aujourd'hui un enjeu holistique et les champs de bataille sont divers, multiples. Donc on ne peut pas aller dans le silence. Il faut vivre et s'adapter dans les siècles. D'ailleurs, dans les mêmes gouvernements en face, l'UGF, qui fait un travail formidable de contrôle, met tout sur la place publique sans impacter négativement sur la sécurité collective et la survie de l'État. Donc le problème au niveau de notre gouvernement, parlement, de notre Assemblée nationale, c'est dans la communication, dans la manière de préparer ce qu'ils vont dire. Enfin, objectivité, puisqu'on est agressé, non, s'il vous plaît, que l'honorable Mary Okundji construise une distance avec cet argument de facilité. Quel est le lien entre la crise éthique exhibée par les députés nationaux? Je parlais ici des injures publiques, je parlais ici de la prorogation de l'état de siège sans aucun débat réel constructif, je parlais ici de la théâtralisation de la scène politique par rapport à notre agression. Nous sommes agressés, c'est vrai, il y a des informations qui doivent être gérées top secrètes, là nous sommes totalement d'accord, mais il y a une crise éthique. Cette crise éthique est venue à l'intérieur même du Parlement avec la question de 21 000 dollars des députés, avec la question de la vampirisation de l'État au niveau de l'Assemblée nationale, avec la question de durée même de plénière, avec la question de la manière de gérer les débats en public. Ça, c'est des questions qui n'ont aucun lien direct avec l'agression.
Merci, et professeur.
Nul n'oppose le contrôle, nul n'est contre le contrôle. Même le président de la République, chef de l'État, lui-même, avait demandé à ce Parlement d'assumer effectivement sa mission de contrôle parlementaire. Comme l'UGF le fait, si l'Assemblée nationale l'avait fait effectivement, je pense que la République aurait gagné, on aurait pu avancer.
Mary Okundji, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud-Kivu.
Sikiri Tomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Que ce soit la cérémonie de la clôture de la session budgétaire, que ce soit les votes du budget par les deux chambres du Parlement, c'est devenu un non-événement pour le peuple landa que nous sommes. Tant que le budget national ne tiendra pas compte de la situation socio-économique du peuple congolais, ça restera un non-événement. Je me pose la question, que font nos soi-disant élus du peuple au moment où la majorité des Congolais coupissent dans la misère indescriptible? On peut hausser le budget, mais tant qu'il n'y aura pas la volonté politique d'améliorer
sa situation,
les élus, pour cette fois-ci, nous voulons que vous apportiez une petite solution à la précarité dans laquelle vit le peuple. Sinon, le peuple se prépare à vous sanctionner sévèrement aux prochaines élections. À bon entendeur, salut.
Mary Okundji, réaction. Soyez conscient.
Je remercie l'auditeur, madame. C'est pertinent ce qu'il est en train de dire. Sauf que notre opinion publique a tendance à confondre les missions du gouvernement et à celles de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne gère pas au quotidien. Vous l'aviez vous-même souligné, le budget est de 16 milliards, plus de 16 milliards que l'on a
voté. Mais vous contrôlez le gouvernement.
Il appartient au gouvernement de faire un effort pour appliquer ce budget tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.
Lorsque le gouvernement ne l'applique pas, vous faites quoi?
Je reviens à ce que disait le professeur qui débat avec nous, madame.
Le professeur Bissa, soyez concis parce que nous sommes presque à la fin de l'émission.
Le professeur doit faire la différence entre un service rattaché au président de la République et un parlement. Nous avons nous avons des missions tout à fait différentes. Et il fait du méli-mélo. C'est comme s'il avait des problèmes particuliers qu'il aimerait exprimer. Il parle de 21 millions. Qu'il est professeur d'université, qu'il fasse des recherches, qu'il aille au budget, la loi des finances existe et qu'il voie ce que touche un député, si c'est cela qui le choque. Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas raisonner lorsqu'il y a la guerre. Mais il y a des choses où l'on ne peut pas se permettre de poser des actions que l'on ne peut pas poser lorsque l'on est agressé. C'est ce que j'essaie de faire comprendre.
Quelle action, par exemple?
Sans toutefois utiliser un ton professoral. Et donc, lorsqu'on est scientifique, je crois qu'il faut analyser la question telle qu'on nous a présentée. La question était de faire le bilan de la session. Mais vous voyez, dans le bilan, on met ses sentiments, on met ses émotions et ça devient un fourre-tout. Non. Et donc, madame, je suis convaincu que tout scientifique objectif verra dans ce qu'a fait l'Assemblée nationale et le Sénat que le budget est positif au regard de la mission qui fonde l'existence du Parlement dans notre pays.
Alors, il y a un autre auditeur, ça sera votre conclusion, Emery Okunji, qui dit ceci: je suis déçu, j'attendais que la question sur la réduction du train de vie de nos institutions soit abordée au cours de cette session, mais rien de cela.
Madame, il faut avoir les détails de ce qui a été comme budget et voir ce que le gouvernement va en faire. C'est le gouvernement qui gère les pays au quotidien. S'il faut réduire les trains de vie des institutions, madame, le budget est là, c'est au gouvernement de voir ce qui est prioritaire à faire. S'il faut réduire, l'Assemblée nationale, le président dans ce discours de clôture, vous en a dit que nous avons tenu compte de tous les secteurs de la vie nationale. Il appartient à celui qui gère le pays au quotidien, madame, de l'appliquer scrupuleusement.
Merci, Emery Okunji. Jean-Baptiste Omendoka, c'est quoi votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que notre peuple devrait s'organiser davantage pour tirer profit du dilemme dans lequel beaucoup de députés sont en train de faillir, c'est-à-dire le choix entre la loyauté avec le chef de la majorité, notamment le président de la République, qui est entre ses mains des postes à distribuer à ceux qui dansent pour lui, à ceux qui chantent pour lui, à ceux qui lui font les yeux doux, et la loyauté envers le peuple. Parce que le chef du député, c'est le peuple, il faut que le peuple s'organise, et je salue ici tout le mouvement citoyen, toutes les organisations de la société civile, tous les scientifiques, comme les membres de l'ODEP, qui n'ont cessé d'élever la voix pour entretenir les contrôles citoyens. C'est grâce à ces contrôles que les députés, les sénateurs vont apprendre davantage à avoir peur du peuple, parce qu'il est dit, la crainte du peuple est le commencement de la sagesse chez les députés, chez les politiques.
Merci, Jean-Baptiste Omendoka. C'est quoi, professeur Michel Bissa, votre mot de la fin?
Merci beaucoup, madame. Je redis encore que le bilan de l'Assemblée nationale au niveau du contrôle parlementaire est catastrophique. Notre pays n'a pas un problème de texte, c'est plutôt un problème de valeurs éthiques, de l'efficacité du travail. Sur ces deux chapitres, notre Assemblée nationale n'a rien fait. Le train de vie des institutions, c'est un véritable fardeau insupportable pour la population. Il appartient à l'Assemblée nationale qui légifère de pouvoir, entre autres, instruire le gouvernement, parce que c'est l'institution supérieure même au gouvernement, pour réduire certains défis des institutions et orienter les dépenses vers les dépenses du social et la construction de l'État, l'autorité de l'État. Je vous remercie, madame. Je remercie mes co-débatteurs. Je remercie également la population qui nous a suivis.
Merci, professeur Michel Bissa. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Pierre Diassinois était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.